Madame Chirac, Bernadette. Sur vos roues, j'ai perdu mes dents. Sur vos roues, j'ai vu la fête. Le froid, la pluie, mon petit déjeuner tous les matins. Le vent, j'ai dessiné en 1027. Un cœur rouge, il y rue d'un gars, sans oublier rue de Lafayette. Ils vous diront, il faut avoir un grain sur les rainettes pour qu'on le chasse à l'âge de la retraite. Je n'ai jamais dit que j'étais saint, je conduisais une camionnette. Sincèrement, j'ignorais le temps. Cela peut arriver au prophète. Monsieur le président, Madame Chirac, Bernadette. S'il vous plaît, tendez-moi vos mains. Au moins, cassez les lunettes. S'il vous plaît, tendez-moi vos mains avant que je perde la tête. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve. Prévu de me péter le futur, l'angoisse vous veut la preuve. La rage. C'est vrai que j'ai voyagé avec un pourriture, des pourritures. Il m'a joué le rôle du Satan, son rôle a grillé Adam et Ève. Je me suis trouvé derrière les murs pour avoir conduit une voiture. On m'a interdit le territoire, j'ai fait appel à Marche ou Crève. Le seul moyen de dire au public que je n'aurai cyanure. Ici, ils peuvent le faire comprendre à ceux qui se sont réjouis de me jeter comme une ordure. Moi, qui a laissé ma jeunesse et ma sueur sur les autoroutes du Toutry Villeneuve. Monsieur Sarkozy, monsieur de Villepin, s'il vous plaît, permettez-moi si j'ai osé de vous demander un coup de main. Car c'est lui qui m'a jugé, déteste les maghrébins. Même ceux qu'on construit, le musée, le rangeur de venin. Fallait voir comment qu'il a rougi, sans négliger. M'a coupé les jambes et compris les mains. Pire que les nazis, l'entend d'Hitler. Mon père, il a défendu la source et les artères. Dans l'ennemi de son fils numéro 1. Mais excuse l'Élysée si j'ai plus de freins. Si je laisse le moisi à Dieu le pain. Voilà la poésie qui m'a permis d'analyser le défaut de l'humain. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve. Prévu de me péter futur, l'angoisse pour de la preuve. La rage, je vous fais serment devant le juge. Tu juges, c'est qui mon juge, tel qu'un maghrébin. J'étais blessé chez mon voisin, il a rien aux zizi tout dans les reins. Il m'aurait donné un coup de fusil ou de me jouer un sale tour. J'aurais pardonné la putain. Pourquoi j'ai réagi, ça j'ai des gamins. Leur amour m'a fait bouger sans les voir, je leur envoie les câlins. Peut-être qu'ils sont bien protégés. J'ai jamais eu de nouvelles, je ne saurais vous dire la situation de mes poulains. La rage. Mesdames, messieurs les députés, mon âme vous avoue si sincérité. C'est vrai qu'un âne m'a fait tomber quand j'étais petit. Et lui c'est vrai qu'un âne avec ses talons j'ai pas pu l'éviter. J'ai pas pu l'éviter, sa banane m'a marqué pour l'éternité. Mesdames, messieurs l'égalité, vous connaissez le renard depuis sa naissance, il vous a jamais quitté. Malheureusement on profite de sa confiance mal placée, parce qu'on adore son identité. Mesdames, messieurs la fraternité, vous voyez la conscience, aujourd'hui l'incroyable devient réalité. La rage. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve. Prévu de me péter le futur, l'angoisse vous veut la preuve. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve. Prévu de me péter le futur, l'angoisse vous veut la preuve. La rage.
Chers auditeurs de Pas de Quartier, l'émission du groupe Louise Michel, bonsoir. Pour la dernière émission de l'année, ouf, et avant de les fêtes de fin d'année, et l'année prochaine, pour faire battre en retraite M. Macron le 10 janvier sur la question des retraites, bien sûr, nous avons invité un grand musicien. Alors, il n'est pas que musicien, il est auteur, compositeur, interprète, acteur et réalisateur. Yann Alexander, bonjour.
Bonjour.
Accompagné de son guitariste, le musicien Bertrand Ferrier. Bertrand, bonjour.
Bonjour.
Alors, avant qu'on ne dise en qui est l'hommage destiné, je voudrais que tu te présentes et que tu parles de ton pays d'origine, le Gabon. Et comment tu arrives à la grande dame de la,
comment j'arrive, oui,
de la chanson française pour laquelle nous allons rendre hommage,
d'accord,
toute cette émission.
Écoute, je suis né le 13 septembre 1982 à Libreville, la capitale du Gabon. Voilà, j'ai l'habitude de faire une blague sur scène, mais enfin, je pense que les gens vont finir par se lasser de cette blague, ceux qui me suivent, quand je leur demande où se situe le Gabon. Je leur dis, ça se situe entre le nord, le sud, l'est et l'ouest. Et en disant ça, je ne vous ai pas avancé davantage. Voilà.
Mais c'est vrai. Ils sont incapables déjà de mettre le continent africain sur une map monde. Alors, à plus forte raison, le Gabon.
Le Gabon.
Épicentre de la France-Afrique.
Épicentre de la France-Afrique. Mon père a été diplomate. Il est à la retraite. Hein. Il était diplomate. Donc, il nous racontait un peu les arcanes.
France-africaine.
Pas que France-Africaine, mais de la diplomatie gabonaise en général, et je dois dire que c'est pas un monde qui m'a vraiment attiré. Je crois que ma mère est française, mes parents sont toujours ensemble, ils vivent en France maintenant, mais à l'époque, quand je suis né au Gabon, donc à Libreville, on est parti quelques années au Canada, où j'ai passé vraiment ma petite enfance à Ottawa, donc le Canada anglophone, et puis on est revenu en 90 au Gabon, qui correspond à l'année où, au début des émeutes pour plus de démocratie, pour le multipartisme. C'est vrai que les gens ont souvent la mémoire courte et on oublie ce que c'était que le Gabon des années 80. Par exemple, ma mère, quand j'étais petit, si elle voulait quitter le territoire gabonais, il fallait une autorisation de quitter le territoire. Si vous étiez un expatrié et que vous disiez le moindre mot, même peu, la moindre insinuation de travers
contre Omar Bongo, le président de l'époque
et le gouvernement, le soir même, vous aviez les policiers qui venaient vous voir, monsieur, vous retournez en France.
C'était vraiment, on mettait dans l'avion.
On mettait dans l'avion et ça c'est vraiment, c'était concret, c'est pas du tout un mythe. Hein.
Non.
C'était vraiment le cas.
C'était étouffant, comme tu le dis bien.
C'était très étouffant. Très étouffant. Et le multipartisme est arrivé, mais dans le sang. Hein. Faut pas croire que il y a pas un président qui dit « Ah bon, ben, j'ai été trop dictateur, maintenant vive le multipartisme. » Ça s'est pas du tout passé comme ça. Puisque je peux même raconter l'anecdote. L'école où j'étais, Gros Bouquet, a été évacuée à la hâte. C'était une école conventionnée, donc c'était pas une école française, mais c'était où il y avait beaucoup d'enfants d'expatriés. Elle a été évacuée à la hâte. C'était le bordel. Et je me souviens que je me retrouve tout seul, mais vraiment tout seul, devant la grande rentrée de l'école, à attendre que mon père vienne me chercher. Et je me souviendrai toujours d'un silence pesant autour de moi. Mon père vient me chercher. Alors, je ne pensais pas que c'était mon père, parce que je vois un taxi qui arrive. Habituellement, mon père venait me chercher en voiture. Mais là, je vois mon père dans un taxi, avec un chauffeur, qui était un chauffeur béninois. Il y avait beaucoup de Béninois chauffeurs de taxi et ce chauffeur était apeuré, il avait vraiment peur parce que souvent, en plus dans des contextes comme ça, les immigrés sont souvent aussi
cibles.
Donc il avait vraiment très très peur. Et nous avons longé à un moment donné, avant d'arriver au ministère des Affaires étrangères où mon père avait mis sa voiture derrière à l'écart, nous avons longé un hôpital et je me souviendrai toujours qu'on entendait des bruits, les pleurs des mamans qui pleuraient leurs enfants tués, qui avaient manifesté. Et ça, c'est quelque chose quand vous êtes gamin,
parce qu'en
plus, vous les entendez. Puis, moi, j'ai une bonne nuit. Donc là, vous les entendez vraiment, vraiment. Et ça monte. En fait, ça monte. Et on arrive au ministère des Affaires étrangères. Devant le ministère, je vois des voitures complètement cabossées, brûlées. Je vois du sang, beaucoup de sang sur les routes, des grosses flaques de sang. Et on arrive au ministère des Affaires étrangères. Mon père avait planquer sa voiture quelque part derrière et on quitte le ministère dans un Libreville. Je ne sais pas si vous connaissez ce film I am a legend, je suis une légende. Ben c'est ça. Ou en confinement. C'est, vous n'avez plus personne dans les rues, vous ne voyez plus rien et il y a juste mon père, la voiture, sur une route. Alors là, on n'a jamais aussi bien circulé. Ça roule. On va tout au sud de Libreville où à l'époque mes parents habitaient. Avant d'aller un peu plus vers le nord de Libreville. Et évidemment, les liaisons téléphoniques étaient chaotiques. Et on ne voit pas ma mère et ma sœur. Et alors qu'il avait appelé plusieurs fois, ma mère n'avait pas répondu au téléphone. Et pour cause, ma mère avait planqué ma sœur dans une pièce un peu à l'écart de la maison, tout au fond. Et Elle faisait comme s'il n'y avait personne dans la maison pour ne pas être inquiétée, parce que la maison était avec trois autres maisons tout au fond d'une impasse. Donc, il ne faut pas oublier que quand il y a des émeutes, les gens ne regardent plus qui est bon ou qui n'est pas bon. Ils ne le regardent plus. Peu importe qui que vous soyez, vous n'êtes plus qu'une cible informe pour les gens. Ils ont Il y a tellement de colère que les gens ne font plus attention à « il est de mon côté, il n'est pas de mon côté ». Ils ne s'embarrassent pas de ça.
Tout à fait.
Donc, du coup, cette maison était une cible de choix au bout d'une impasse. Et d'ailleurs, régulièrement, de 90 à 92...
Qui est la mort de
Rengabé, on va revenir. Il y a eu des émeutes violentes avec des magasins brûlés à proximité de ce quartier où nous vivions. Et à chaque fois, je me souviens toujours, ma mère, les enfants, hop, vous quittez, on va dans la pièce au fond et on attendait. Mm-hmm. On attendait que ça passe, on répondait pas au téléphone et tout. Ça, c'est des choses que vous ne pouvez pas oublier. Ça marque à vie, hein. Ça marque à vie. Quand des gens me racontent les guerres civiles, tout ça... Les violences civiles, tout ça, je comprends de quoi il s'agit. Mais vraiment, je comprends pleinement. Et du coup, tous ces morts, bon, ont peut-être servi à quelque chose. Ça a obligé le président, qui craignait pour sa vie à ce moment-là. Il a eu peur, il a eu très peur à l'époque.
Ah bah oui, l'armée française était là pour le protéger.
Tout à fait. Et c'est Mitterrand qui lui a dit de mettre un peu de l'eau dans son vin et de...
À la boule.
À la boule, d'ouvrir les vannes. Évidemment, il y avait cet opposant Miéné, Rengabé.
Voilà.
Donc, de la même ethnie que mon père, qui est une des quatre ethniques, et la même ethnie que Pierre Akenenge, le grand chanteur dont je suis...
Le petit-neveu.
Petit-neveu, que je n'ai pas très bien connu, mais il faut savoir que dans les systèmes de lignage africain, enfin gabonais, tous les Akenenge sont cousins. Voilà, on parle de ce principe-là. Ils sont tous cousins. Après, il y a des sous-groupes. Il y a ceux de la région de Dambaréné, il y a ceux du sud, enfin bon, voilà. Puis il y a ceux des villes, les Miéné de la grande ville, c'est-à-dire Port-Gentil et Libreville, on les appelle des Pongwe. Mm-hmm. Voilà. Ça veut dire qu'ils ont toujours été dans la grande ville, mais ce sont des Pongwe. Mais mon père, lui, il était natif de Port-Gentil. Là, c'est Miéné. Enfin, Port-Gentil, et puis avec des attaches à Lambaréné, la ville du docteur Schweitzer, donc là c'est vraiment Miéné. Et donc c'est l'une des quatre ethnies, ou cinq ethnies les plus connues du Gabon, et les Miéné avaient une réputation, je dirais, un peu comme les Signards au Sénégal, ou les Métis en Angola. Donc on les appelait un peu les Blancs du Gabon, des choses comme ça, parce qu'ils ont été très très tôt en relation avec les colons portugais. Mmh. Il y a plusieurs siècles, et puis après avec les protestants, notamment les Américains, qui sont venus faire des missions protestantes dans la région de Lambaréné. Et donc mon père d'ailleurs a été dans une mission protestante, voilà. Schweitzer était protestant, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a pris pour cible Lambaréné, parce qu'il savait qu'il y avait un terrain favorable. Voilà. Et donc il y a cet opposant Rengabé qui avait fait ses études notamment en Tchéquie et qui avait prince de sang et qui avait donc pas mal d'affinités avec le monde communiste.
Oui.
Et donc il y a, ben, en fait, faut être honnête, il a représenté une menace. Et surtout que c'était quelqu'un qui avait beaucoup de charme, de la séduction et qui était même capable de charmer ses ennemis, y compris dans les hauts niveaux de la France-Afrique. Donc il n'est pas dit qu'à un moment donné
n'aurait pas pensé à remplacer Bongo, qui était trop visible.
Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Alors rien ne dit que
il était plus présentable.
Il était plus présentable. Rien ne dit que on peut pas. Enfin voilà, il s'est passé ce qui s'est passé. On ne sait pas ce qu'il aurait été comme président. On va pas réécrire l'histoire. On ne sait pas. Donc mais
c'est une occasion ratée comme Lumumba.
Il y a tellement eu d'occasions ratées au Gabon, si vous saviez.
Oui.
Tellement, tellement.
C'est après. Pathétique.
Alors c'est pathétique, mais c'est la réflexion qu'on se faisait avec ma collègue Titane Zebi, qui est, alors, elle est beaucoup plus loin que moi, je veux dire, elle a une chanson qui s'appelle Dictature inavouée. Bon, c'est vrai qu'on a fait beaucoup de manifestations en France contre le coup d'État de 2016. Je me suis pas embarrassé de savoir si par mes positions j'allais porter atteinte à la famille ou pas. Et puis de toute façon, mon père m'a encouragé là-dedans. Finalement, mes parents m'ont encouragé. Ils n'ont pas dit « Ah, t'as tort de faire ça, t'as tort de prendre... » Non, ils m'ont vraiment
Un enfant aussi talentueux que toi, ils vont quand même pas être...
Mais ils auraient pu avoir peur pour des raisons... Vous savez, des gens ici ont menacé leur famille au Gabon, vous comprenez. Donc
c'est la France-Afrique, ça.
C'est la France-Afrique. Et bon, et le président de l'époque n'a pas fait grand-chose. Il y avait Jean-Yves Le Drian,
oui,
qui n'a pas fait grand-chose, voire pire, mais on ne va pas s'étendre là-dessus, et, voilà, et qui est toujours dans les arcanes du pouvoir actuellement. Mais comme on disait avec Tita, et c'est terrible, hein, mais je crois que 70% des Gabonais l'ont voulu. Je crois que...
Il s'accommode.
Oui, il s'accommode. Là, par exemple, ce qui m'intéresse toujours, que ce soit des démocraties ou des dictatures ou des démocratures, voilà, on va dire, c'est qu'on s'aperçoit quand même que quand les gens en ont marre, les pouvoirs vacillent. En Chine, ils n'en pouvaient plus du confinement, ils n'en pouvaient plus, et le pouvoir a vacillé et a été obligé de lâcher les vannes. Ça ne veut pas dire que les Chinois, tout d'un coup, rêvent dans leur majorité demain d'une démocratie à la norvégienne, c'est pas ça que ça veut dire, mais quand les gens en ont marre d'une situation, ils le font comprendre. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'était passé en 90-91, au moment où le président était obligé d'accepter le multipartisme. Voilà. C'est qu'à un moment donné, les gens ont dit stop. Mais tant que les gens ne disent pas stop,
ils continuent.
Eh bien, ils continuent. Et tant que chacun s'accommode, parce qu'en plus, c'est des sociétés profondément inégalitaires, où vous êtes dans des matitis, donc les bidonvilles, mais vous avez un oncle qui est haut placé, donc vous allez fermer votre gueule, tout faire pour essayer d'avoir quelque chose via votre oncle ou votre tante qui est bien placé, pour avoir un poste, etc. Donc en fait, tout le monde se tient par la main dans un pays qui est très petit. On a quoi ? 2 millions d'habitants officiellement, mais il semblerait que ce soit moins. C'est même pas sûr qu'il y ait 2 millions d'habitants.
Oui.
Où beaucoup de gens se connaissent, c'est très compliqué.
Oui.
C'est très très compliqué. Et ça, encore une fois, la France-Afrique est une forme de... Elle a été la cause, maintenant elle a une forme de symptôme.
Oui.
Et les Gabonais, le peuple gabonais, y compris dans la diaspora... Bon, ils s'accommodent. Hein. Moi, je vois bien sur Instagram, je vois bien les gens qui m'écrivent, les Gabonais. Ils s'accommodent. Tout le monde s'accommode. Enfin, tout le monde, beaucoup s'accommode. Et ceux qui ne s'accommodent plus ont fait sécession. Et je connais des Gabonais, ils disent, bah, le Gabon, c'est plus mon pays. Ma vie, elle est en Belgique. Ma vie, elle est en France. Ma vie, elle est en Suisse. Ma vie, en Afrique du Sud. C'est-à-dire qu'ils ont déjà fait sécession dans leur état d'esprit avec ce pays-là.
Alors, toi, tu n'as pas fait sécession, mais... Explique-moi ton parcours depuis ce que tu as expliqué vers la grande dame de la chanson qui nous écoute, que je salue, parce qu'elle a bercé beaucoup de périodes de ma vie. Madame Ribeiro, bonjour.
On embrasse très fort Catherine Ribeiro,
voilà.
Qui est en Allemagne actuellement. Moi, j'ai démarré la chanson en 2003, donc ça va faire 19 ans maintenant. J'ai fait des études d'aménagement du territoire, enfin de géographie et aménagement du territoire, et je devais entamer un DEA qui ne me passionnait pas du tout. C'était dans une fac de droit à l'université Saint-Serge à Angers, puisque ma famille maternelle est de cette région-là, du Maine-et-Loire, et ça me motivait pas du tout. Je me suis retrouvé assistant d'éducation dans un lycée professionnel, 2 jours par semaine, et sinon le reste du temps j'ai commencé à... C'était très naturel pour moi, à me lancer dans des enregistrements studio. Les choses se sont fait vraiment assez fluides, hein, au début. Et puis, donc j'ai proposé des chansons, c'était moi qui m'accompagnais au piano à l'époque. C'était de la chanson pop, c'était très dark déjà à l'époque, c'était assez sombre, très mélancolique, ce qui correspond forcément à ma nature. Et je crois que j'ai dû mettre... J'ai commencé à d'abord faire un album avant de monter sur scène, ce qui était assez rare d'ailleurs. En général, les gens faisaient de la scène avant de faire un album, moi c'était tout le contraire. Et je me suis retrouvé à chanter d'abord à l'Autrement Café à Angers, qui n'existe plus en tant que tel, mais qui est devenu l'Entre-deux, qui est un lieu LGBT avec un étage consacré au spectacle encore. Enfin, ils ont gardé l'étage en tout cas. Et puis après, je me suis retrouvé, comme on dit, on montait sur Paris. Et à Paris, j'ai commencé à chanter dans un lieu qui n'existe plus non plus, qui s'appelle Le Magique. C'était dans le 14e arrondissement.
Est-ce que c'est là où on a commencé à repérer le fait que tu ressembles un peu à Jean Guidoni ?
C'est possible parce que...
Que je salue, grand interprète de la chanson française. J'ai raté son dernier spectacle.
Au Bouffe du Nord.
Pour cause de trop de travail. Mais vraiment, la prochaine fois qu'il se produit, je fonce ventre à terre.
Il est venu me voir quelques années plus tard, en 2008, au Musée des Vampires, où je faisais une série de spectacles, un monologue théâtral avec des chansons qui s'appelait Confession d'un vampire sud-africain. Et il était venu me voir, et après on avait pris un pot à République, et je me souviendrai toujours de ce qu'il m'avait dit, parce que c'était quand même... Bon, il était passé par des cures de désintoxication, des choses comme ça. Enfin, il avait vécu des choses très lourdes, hein. Il en avait parlé dans une biographie. Mm-hmm. Et il m'avait dit, surtout, ne laisse jamais les gens ébranler ta dignité. Tu vas voir dans le milieu artistique, beaucoup de gens voudront atteindre ta dignité. Et ça, c'est toujours resté dans un coin de ma tête, que même en cas d'échec, même en cas de problème, toujours garder la tête haute et tout. Parce qu'effectivement, c'est un milieu assez violent, assez... acre, où beaucoup de gens veulent vous atteindre. Ça, c'est vrai, il avait raison. C'est un milieu assez mortifère par bien des aspects, le showbiz. Et c'était lui qui le disait du haut de ses déjà 30 ans d'expérience, quand je le voyais, ou même peut-être 40 ans, puisqu'il chantait depuis le milieu des années 70. Mmh. Et c'est vrai qu'on nous a comparé beaucoup à mes débuts. On nous a comparé beaucoup. Moi, je ne le connaissais pas à l'époque. C'est quand j'ai vu que des journalistes nous comparaient que j'ai appris à le découvrir.
Et à l'apprécier.
Et à l'apprécier, il a des très très belles chansons, très très belles. Le Haut Mur, Tout va bien, enfin, voilà, des chansons
bien.
Très fortes. Donc moi j'ai continué ma route comme ça, j'ai
alors,
fait des
concerts.
Alors
quand est-ce que tu rencontres Bertrand Ferrier?
Ah, Bertrand Ferrier, c'est beaucoup plus tard, parce que Bertrand Ferrier, nous nous sommes rencontrés, je crois, bon d'abord Bertrand Ferrier, donc, n'est pas que, bon, il est pianiste, il est organiste, mm-hmm. Il est aussi écrivain.
Ah, ça, il me l'avait caché.
Voilà. Il est critique, et très bon critique, c'est-à-dire qu'il décrypte très bien, peu importe que ça soit négatif. En fait, c'est jamais complètement négatif, d'ailleurs, une critique de Bertrand Ferrier. Mais il décrypte, il analyse ce qu'il observe. Et je me souviens, parce que j'avais fait donc un spectacle autour d'Anne Sylvestre et tout, et donc c'était comme ça qu'il s'était intéressé à mon travail. Et il avait organisé une soirée chanson au Batignolles. Et donc j'avais été invité, j'ai chanté, j'étais accompagné par deux choristes, Sultana et Oumandi. Et en première partie, enfin en coplateau, il y avait une autre chanteuse qui s'appelait Céline Prévost. Et donc c'est comme ça qu'on a beaucoup discuté, nous avions beaucoup de points communs et une grande connaissance de tout un pan de la chanson qui déjà à l'époque en 2013 n'intéressait pas grand monde. Pauline Julien, bon, trois quarts des gens s'y intéressaient pas, enfin voilà, il y avait tout un tas de références qu'on avait communes. Et un peu plus tard, moi-même j'ai voulu faire un spectacle autour de Pauline Julien, mmh. et il m'a accompagné sur scène à l'Atelier du Verbe, ça s'est très très bien passé. Et donc, parce que j'avais une grande admiration que j'ai toujours, hein, pour cette chanteuse québécoise, son parcours, sa vie, voilà. Et j'ai chanté pas mal Anne Sylvestre et Pauline Julien, donc c'était vraiment... je les incorporais dans mes propres tours de chant avec mes propres chansons, et ça passait. Et il est arrivé plusieurs fois donc des spectateurs me demandent pourquoi je ne chantais pas Catherine Ribeiro. C'est comme ça que ça s'est passé en fait.
Génial.
C'est-à-dire que
c'était évident.
Je plaisante souvent, je dis, ma Sainte Trinité, c'est voilà. Anne Sylvestre, Catherine Ribeiro, Pauline Julien.
Voilà.
Alors attention, je plaisante parce que des fois des gens, j'ai dit souvent que je préférais quand c'était des femmes qui chantaient. Et donc du genre, les gens tout d'un coup me citent, ah Barbara, non je suis passé à côté de Barbara, je ne suis pas fan, on me cite Marie Laforêt, je suis passé à côté de Marie Laforêt, j'écoutais, je n'ai rien ressenti, donc je ne peux pas dire que c'est une question de femmes qui chantent, ce sont mm-hmm. des personnalités. Je viens d'une famille où on écoutait aussi bien Michael Jackson que Pierre Akenenge, que beaucoup de classiques, puisque ma mère était professeure de piano. Mm-hmm. Moi-même j'ai eu l'occasion de voir Mylène Farmer en concert à l'Accor Arena, donc vraiment... On a un éclectisme dans la famille que mes parents m'ont transmis, que j'ai gardé. Et je me suis retrouvé dans Catherine Ribeiro avec cet éclectisme-là. C'est tout mon bagage personnel qui a fait que j'ai peut-être été sensible à Catherine Ribeiro parce que c'est pas de la chanson rive gauche. C'est à 100%, c'est pas du rock à 100%, c'est un peu tout ça. Il y a des moments variétés de haut niveau, il y a de la revendication, mais il y a beaucoup d'amour également. C'est quelqu'un qui chante l'amour. Je pense à l'enfant du soleil couchant, elle chante son rapport à la spiritualité, il y a quelque chose de très mystique chez elle. J'étais sensible à tout ça. Je la connaissais pas très bien, c'est parce qu'on m'en a parlé plusieurs fois. J'ai écouté, et je crois que la première chanson que j'ai écoutée d'elle, c'est « Tous les droits sont dans la nature ». Tous les droits. Et je dis waouh. Tiens, donc du coup, sur YouTube, je vais à la chanson suivante. Et puis je vais à la chanson suivante. Et puis je vais à la chanson suivante.
Et après, tu décides de faire un tour de chant.
Non, pas tout de suite. Non, parce que je l'ai découvert comme ça, j'ai pris le temps de la découvrir. C'était en 2018. Donc, le tour de chant, il date de... La première, on a fait le 5 novembre 2022. Donc, il y a quand même 4 ans qui s'écoulent.
Pour décider un spectacle, tu as mis 4 ans.
Ben, c'est-à-dire que j'avais déjà mes propres spectacles. J'avais déjà... Alors, ce que j'ai fait progressivement, c'est que... En 2021-2022, donc il y a eu cette tournée Consolation où Bertrand a souvent été de la partie, qu'on a fait dans des conditions assez folles des fois, parce que on a beaucoup chanté chez l'habitant.
Ah bah, beaucoup. Confinement oblige.
Et passe sanitaire oblige, parce que c'était, voilà, donc il était, je voulais pas rentrer dans ce truc-là, donc j'ai dit non, donc on a eu cette occasion, heureusement il y a des réseaux qui se sont organisés, des structures qui se sont organisées, donc on a fait pas mal de concerts chez l'habitant, à Chartres, à Champfolles et tout, et c'est là que progressivement j'ai intégré 2 chansons de Catherine, Folle Amérique et Soleil.
D'accord.
Voilà.
Alors laquelle tu commences ?
Ce que je serais tenté de faire, ce serait de faire jusqu'à ce que la force de t'aimer vous manque.
D'accord.
Avec Bertrand à la guitare.
Bien, merci Bertrand.
Voilà, parce que c'est une chanson d'amour.
Ah oui.
Voilà. Et c'est important de le dire. Catherine est une révoltée, mais c'est une révoltée amoureuse. Voilà, c'est important de le souligner. Je voudrais pouvoir t'aimer 2 ans, 3 ans, 10 ans. T'aimer jusqu'à ce que la force de t'aimer me manque, que le bonheur de t'aimer s'estompe, afin que je puisse aimer quelqu'un d'autre que toi. Quelque autre chose que toi. La 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 la. Aimer de nouveau, sans cesse aimer, comme je t'aime en ce moment. Malgré la frustration de ta présence, malgré l'absence, douloureuse souffrance inutile, et pourtant combien nécessaire, vital à nos esprits de fous. La 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 la. Quel gâchis que ce temps d'amour versé à d'autres que toi. Mais peut-être, quelle superbe résurrection de la vie. Oh la 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 la.
Ouais. y a Sacha Guitry qui disait que le silence après Mozart, c'était aussi du Mozart. Le silence après Catherine Ribeiro, c'est aussi Catherine Ribeiro. Merci Bertrand.
Merci à lui, vraiment, parce qu'il m'a beaucoup encouragé dans ses décisions. Parce que bon, la tournée Consolatio s'est finie le 30 juin dernier. Et puis bon, mais en tant qu'artiste... On prend pas des vacances comme ça, quoi. C'est pas possible. Donc il fallait bien, faut avoir des projets. Si un artiste n'a pas de projet,
il meurt.
Donc ça m'a donné une énergie. Et je dois dire, je voudrais dire quelque chose aussi. C'est qu'on a été également porté par l'énergie. Alors évidemment de Catherine, j'y reviendrai, mais de tout un entourage de Catherine, de fans de Catherine, qui nous ont vraiment portés. Vraiment, quand je dis portés, je pense à un en Suisse qui a fait l'affiche gratuitement, qui l'envoie, qui a fait le design tellement il était heureux.
Ah, il est magnifique.
Je pense à Magali Bastoni-Roca, qui nous a énormément soutenus, y compris financièrement. Voilà. Et d'autres fans qui ont relayé. Alors, je me dis, bon, peut-être parce que c'était moi que je le méritais, peut-être qu'il n'aurait pas fait avec tout le monde, mais vraiment, je me suis senti
porté.
Mais vraiment porté, c'est-à-dire que je me suis dit, tiens, c'était très émouvant d'ailleurs le 5 novembre, parce que, bon, il y avait des gens qui ne connaissaient pas du tout Catherine Ribeiro qui sont venus parce que c'était moi. Il y a des gens qui connaissaient Catherine Ribeiro et Yann Alexander, puis il y a des gens qui connaissaient que Catherine Ribeiro et pas moi. Et tout ce public... se mélangeait très harmonieusement.
Mmh.
Et après le spectacle, parce que ce spectacle, évidemment, je chante du Ribeiro, mais je chante aussi mes propres chansons, mais finalement, pour ceux qui ont écouté, combien de fois j'entends dire « Ah, mais c'est tellement évident que tu allais les reprendre. C'est tellement évident, tout fait sens, tes propres chansons répondent aux chansons de Catherine. » Donc je dis « Bon, je prends ça comme un compliment. » Et puis évidemment Catherine elle-même et Philippe Smets, un ami en Allemagne qui l'aide beaucoup, m'ont beaucoup accompagné là-dedans. On a eu le soutien de Francis Campello, qui a été musicien pour Catherine et qui est venu le 5 décembre. Puis j'ai reçu un texto très gentil de Cédric Villani.
Oui, alors, sur Internet, on voit son bureau.
Oui, avec un très beau portrait de Catherine.
Ribeiro, justement.
Il m'a envoyé...
J'aurais pas cru qu'il était fan de Catherine.
Il est profondément fan. Il m'a envoyé un petit mot en disant que pour moi, il pouvait pas, mais qu'il espérait venir me voir.
Comme quoi, on peut être Medeifield et être fan de Catherine Ribeiro.
On peut être fan d'eux ?
On peut être Medeifield.
Ah !
C'est l'équivalent de du prix Nobel de...
Oui, oui.
Et être fan de Catherine Ribeiro.
Mais je pense qu'il a un éclectisme très fort, Cédric Villani. Il a une culture musicale assez, assez profonde. Hein.
Ça m'avait pas paru dans ses conversations.
Oui. Moi non plus, d'ailleurs.
Mais quand j'ai vu...
J'ai laissé à posteriori. Mais...
Oui, voilà. Quand j'ai vu la photo, j'aurais pas cru. Comme quoi, on se fait des... Alors, je rappelle que tu as un site internet.
Oui.
Et surtout qu'on peut télécharger toutes tes musiques.
Oui. J'ai un éditeur qui fait un bon boulot là-dessus. C'est Laloline Publishing. C'est lui qui se charge de tout. Parce qu'on a déjà fait beaucoup de choses. On peut pas tout faire.
C'est Yann Alexander Blogspot.com.
Oui,
voilà.
Fait.
On peut les charger légalement
tout
et les écouter. Et surtout celles de la période gabonaise.
Oui.
Il y a des
chansons, il y a Gabon, il y a C'était à Port-Gentil qui est la plus connue. Hein,
voilà.
De mon répertoire. Il y a. Bon. Après, il y a un texte que je peux le faire là, qui est un peu ma profession de foi, qui fait écho à ce que je suis, à mon passé, à ma famille. C'est Le Mulâtre, qui est un poème qui date de... Enfin, qui est une chanson, mais qui a souvent été aussi bien chantée que en forme poème sur scène, et qui date de 2006. Voilà.
2006.
De 2006.
Alors, on le passera en pause.
Oui.
Moi, ce que je voudrais...
À moins qu'il ait déjà appris à enregistrer, mais sinon, je le réciterai. Voilà,
c'est d'accord. Ça que je voulais dire. Ce que je voudrais, c'est que tu nous... Il n'y a pas que des anciens de mon âge qui écoutent cette émission, il y a des jeunes, et je voudrais que tu leur fasses un résumé. Qui est Catherine Ribeiro? Qu'est-ce que pour quelqu'un de jeune? Alors, si on va sur sa fiche Wikipédia, bon, parce que, allez hop, on va être lambda, on dit que c'est une actrice et chanteuse libertaire française d'origine portugaise. Mais ça, ça ne veut rien dire.
Ben non, c'est un peu réducteur.
C'est très réducteur.
C'est comme quand on dit la passionnariat rouge. Voilà. Moi, ce qui m'étonne toujours, et ça fait peur à beaucoup d'artistes, hein, ça nous fait peur. Des fois, vous avez, c'est une phrase très célèbre, « Ah, la grande Catherine ».
Oui.
Oui, mais la grande Catherine, est-ce que vous êtes capable de citer au moins une de ses chansons? Vous dites « La grande Catherine, la grande Catherine ». Moi, ça me fait penser aux gens, « Ah, il y en a Alexander », mais qui ne viennent jamais me voir en concert. Donc, je suis toujours un peu...
Frustré.
On est idéalisé, mais tout ce qu'on peut dire de façon concrète, chanter et tout, finalement, on devient une image... Et j'ai un peu peur que Catherine, ça soit ça, c'est-à-dire que plein de gens ne la connaissent pas, et que ceux qui la connaissent un peu la figent dans une image, la grande Catherine. Mais la grande Catherine, elle s'en fout d'être la grande Catherine, elle veut qu'on l'écoute encore, parce que ses chansons, les chansons sont faites pour être écoutées.
Elle est toujours d'actualité.
Et elle est toujours d'actualité.
Alors, tu nous as gentiment fait une clé USB
oui.
avec certains de ses titres.
Oui.
Alors, tu vas demander à notre cher technicien, animateur technicien, aujourd'hui Nicolas, laquelle veux-tu
pour... Mais je pense, pour intéresser les gens qui ne la connaîtraient pas très bien, voire pas du tout, je pense que Faune Amérique,
ah.
de 82, je crois. C'est une bonne entrée en matière.
Bon, d'accord. On va demander Faune Amérique pour une pause musicale. Catherine Ribeiro.
Je chante le blues de la détresse, le blues de nos blessures en verre. Vos musiques nous collent à la peau et dans nos cœurs déracinés, nos voix se touchent et s'entremêlent. Amour, love, jamais never, rien. Cependant sont les bourses de Paris, de Londres, de Munich. Dollar infarctus, dollar banqueroute, dollar dans nos têtes. Amour, love, jamais, never. Essence de coque armée de béton. crampole à diviser et la bombe à neutrons.
Chers auditeurs de Pas de Quartier, vous êtes dans l'émission sur Radio Libertaire, pardon, chers auditeurs de Pas de Quartier, vous êtes dans l'émission Pas de Quartier du groupe Louise Michel sur Radio Libertaire. Je suis émue. J'ai un grand artiste à mes côtés, deux, puisqu'il y a son musicien et Yann Alexander. Et nous sommes écoutés par Catherine Ribeiro. Alors, je suis encore plus émue. Madame Ribeiro, avant qu'on ne parle de ses engagements, je voudrais que tu récites Le Mulâtre, okay. S'il te plaît.
Vaguement noir, vaguement blanc, après tout, quelle importance. Il était l'un et l'autre tout le temps, vêtu de sa libre conscience. Pourvu d'une bien étrange face, mais que voulez-vous qu'on y fasse, il était plutôt misanthrope et vivait comme un lycanthrope. Le mulâtre est mort en marginal dans son village natal. Le mulâtre est mort heureux dans l'âme, toute sa vie fut une flamme. Oh, vaguement de gauche, vaguement de droite, vaguement pauvre, vaguement riche. C'était un précaire bourgeois, vous savez ce que c'est quand on triche et que personne ne le voit. C'était un homme si accompli qu'il déroutait les malappris. Il savait aimer sa vieillesse, ses derniers instants d'allégresse. Le mulâtre est mort en marginal dans son village natal. Le mulâtre est mort heureux dans l'âme. Toute sa vie fut une flamme. Oh, bien sûr, il eut une enfance morose, des souvenirs d'enfant gâté, un peu de neige, un peu de rose. De l'enfance, il s'est acquitté. L'adolescence fut difficile, on le prenait pour un débile, aimant les hommes, aimant les femmes, ayant des caprices de vieille dame. Le mulâtre est mort en marginal dans son village natal. Le mulâtre est mort heureux dans l'âme. Toute sa vie fut une flamme. Pas encore mort, encore en vie, mais un artiste s'anticipe et en vous je suscite l'ennui ou l'envie, c'est selon. Tout en gardant certains principes, je prends les angoisses dans mon cœur et je valse avec le malheur. Belle est ma petite vie sur terre, nul besoin de faire une prière, car le mulâtre n'est qu'un marginal, mais quand il parle de lui, il parle de vous, il parle de nous. Le mulâtre n'a pas choisi son village où il mourra la prochaine nuit, où il mourra la prochaine nuit.
Merci. Donc, comme tu parles de nous en parlant de toi, et tu parles de toi en parlant de nous, s'il te plaît, Madame Ribeiro. Alors, les années 70...
Moi, je suis très... Enfin, j'aime toutes les périodes de Ribeiro, mais je dirais qu'effectivement, les années 70, c'est là où l'engagement est le plus fort. Mm-hmm. Il est le plus intense, et c'est un engagement assez libre, finalement, parce qu'on oublie de le dire, mais elle ne sait pas que fait des amis dans la gauche française, hein, Catherine. D'ailleurs, elle a été un peu lâchée après l'élection de François Mitterrand. Donc, c'est une femme qui est profondément engagée contre les inégalités sociales. Elle parle souvent, elle fait souvent référence à son père qui était ouvrier, à sa famille d'immigrés portugais à Lyon. Donc, c'est quelque chose qui revient souvent chez elle. C'est une femme qui a été dans de nombreuses associations. Elle a marrainé de nombreuses associations engagées dans les années 70. Donc,
la Palestine, le franquisme, les anarchistes.
Exactement.
Et ceux qui fuyaient le coup d'État de Pinochet.
De Pinochet. Elle a été aussi très proche des engagements du FAR, le Front Homosexuel Révolutionnaire.
Oui, exact.
Elle a beaucoup soutenu. Elle a été l'une des rares artistes dans les années 70 à soutenir frontalement les questions LGBT. Ça, il faut le dire aussi, c'était pas courant à l'époque. Hein.
Et c'est pour ça qu'elle s'est fait beaucoup d'ennemis.
Et elle s'est fait beaucoup d'ennemis là-dessus.
Et puis, sur la question de la Palestine aussi.
Et sur la question de la Palestine et sur la question des femmes également. Elle était jugée trop féministe par les uns, pas assez par les autres, trop belle pour être franchement féministe. Ça aussi, certains féministes lui ont reproché.
C'est vrai.
D'ailleurs, on a reproché la même chose à Pauline Julien au Québec, qu'elle était trop belle et trop sexy pour être féministe. Donc, ce qui dit quand même quelque chose aussi de l'état d'esprit. C'est pour ça que maintenant on dit la grande Catherine, la grande Catherine, il y a un peu une hypocrisie parce qu'il y a tout un tas de choses dont elle a souffert elle-même, elle le dit, elle a été censurée quand même profondément, donc alors que c'était la femme qui remplissait le plus de salles de 73 à 79, c'était la seule femme parmi les cinq. Il y avait Michel Sardou, il y avait Maxime Le Forestier, il y avait Serge Nama et il y avait Catherine.
Oui.
Et il y avait Catherine.
Ouais, exact.
Et c'est vrai que moi qui suis arrivé en France, bon, je venais en France chaque été, mais quand je suis arrivé plus longtemps, j'étais chez ma grand-mère à Angers, que je regardais la télé, on regardait les nostalgies de France 3, tout ce qui pouvait passer dans les années 70, et c'est là qu'on voit que l'histoire est un outil de domination, que c'est là pour saper les vérités, parce que si on regarde France 3... Ils nous mettent que des extraits des émissions de Marité et Carpentier.
Tout à fait.
Il y a des bons artistes là-bas, c'est pas la question. Mais on a l'impression qu'il y avait que ça.
Oui. Alors que.
Alors qu'en fait, la scène était immensément riche. Moi, je suis tombé des nues, j'ai découvert Jean Vasca, que j'aime beaucoup. J'ai découvert Maurice Bénin, que j'aime beaucoup. Bon, Anne Sylvestre a toujours été entre les deux, mais enfin, même elle passait pas beaucoup à la télévision,
quand même,
dans les années 70. Elle y passait, mais pas beaucoup. Mais j'ai découvert tout un tas d'artistes qui avaient des parcours, des carrières, Jacques Bertin, des carrières, du public. Et on a l'impression.
Qu'il n'y avait que le samedi soir de
Marie-Gibert et
Carpentier.
Qu'il n'y avait que Mireille Mathieu, qu'il n'y avait que
Jodassin.
J'ai pas de problème, moi, avec Jodassin. La question n'est pas là, entendons-nous bien. Mais de montrer une vision tronquée des choses,
voilà.
C'est profondément malhonnête. Et des journalistes qui ne font pas leur boulot, y compris à gauche, se contentent de cette réalité qu'on leur offre. Or que c'est une réalité fabriquée. Ça ne correspond pas à la réalité. La réalité, j'ai des archives. Hein. En plus, je remercie Philippe Smets, qui aide beaucoup Catherine Ribeiro au quotidien à l'heure actuelle, qui m'a envoyé des revues de presse des années 70, des magazines et tout. La scène est immensément riche dans les années 70. Il y a énormément de choses qui se passent en chanson française, en rock français. Il y a énormément. C'est pas vrai qu'il ne se passait rien. Il se passait énormément de choses. Il y avait des maisons de quartier avec des spectacles, il y avait des festivals. Et en plus, il y avait quelque chose qui a complètement disparu. Et ça, c'est dommage. Les associations politiques intégraient toujours la culture.
Oui.
Donc, du coup, chaque association politique proposait toujours des concerts.
Tout à fait.
Ça
même les anarchistes.
Même les anarches. Ça a quasiment disparu.
On a retrouvé des affiches où il y avait hier Jean-Yann qui soutenait la fédération anarchiste.
Tout à fait. C'est-à-dire, en fait, on a tout un tas de structures. On dit l'UMA, mais en fait, l'UMA, il n'y a pas que l'UMA à l'époque. Il y a tout un tas de structures politiques qui soutiennent et font chanter des artistes.
Oui.
Qui les font travailler, en fait. Et maintenant, non, ça n'existe plus ou quasiment plus. Je ne pense pas qu'il y ait un congrès socialiste ou communiste qui invite un chanteur à monter sur scène et à chanter. Ou même, allez, même à la droite ou à l'extrême droite, je ne vois pas. Ça n'existe pas actuellement, quasiment pas. Ça veut dire que le politique s'est complètement coupé de la culture. Voilà. Et mais encore une fois, ça convient peut-être à beaucoup de gens, j'en sais rien. Moi, je veux pas. Je chante une révoltée, mais je suis tout seul, je peux pas faire la révolution tout seul, hein, c'est pas possible.
Mais tu peux l'animer.
Je peux l'animer, voilà. Mais Catherine, c'est un nom qui ne dit plus grand-chose à beaucoup de monde actuellement. Parce qu'en plus, la dernière fois qu'elle est montée sur scène, c'est, je crois, en 2008. Nous sommes en 2022, donc le public ne s'est pas forcément renouvelé. Beaucoup de gens sont morts. Sinon, beaucoup de gens sont très âgés, très fatigués. Beaucoup de gens sont dans des maisons de retraite. C'est une réalité à laquelle il faut penser. Je n'ai pas choisi d'aborder Catherine Ribeiro. Je ne me suis pas mis dans la tête de « je fais l'hommage et les gens qui aiment Ribeiro viennent ». Non, je me suis dit « je me fais plaisir à chanter une chanteuse que j'aime beaucoup et que, pour qui j'ai un immense respect, sans forcément la mettre sur un piédestal ». Pour moi, c'est une collègue, Catherine, mais elle a 50 ans d'expérience de plus que moi. Mais c'est une collègue. Donc je chante ces chansons que je m'approprie en me disant, eh ben, on va voir qui a envie d'écouter ces chansons-là.
Voilà. Mais tout le monde, parce qu'elle est toujours d'actualité.
Mais Fall America, par exemple, y a des parties du texte qui, évidemment, ne résonnent plus avec la situation actuelle, mais cette chanson résume bien l'hyperpuissance des États-Unis. Alors attention, parce qu'une fois qu'on a dit ça, c'est toujours la même rengaine. Je ne fais pas partie des gens qui vont critiquer l'impérialisme américain pour applaudir l'impérialisme russe ou australien ou sud-africain. Il ne faut pas exagérer non plus, ou chinois. J'ai horreur de l'impérialisme. On a vu ce que ça donne, la France-Afrique. Donc je ne vais pas commencer à dire, bon, eux, c'est des impérialistes et les autres, c'est normal. Non, je déteste quand des pays dictent leur agenda à d'autres pays, à d'autres sociétés et rentrent dans la vie des gens. On voit ce que ça donne. Mais l'hyperpuissance américaine, c'est un fait, et quand même trois quarts du monde reste encore, même la Chine reste dépendante des États-Unis. Donc finalement, folle Amérique, oui, il y a quelque chose de fou à l'idée que notre monde entier, qui a des centaines de pays, des centaines de sociétés et tout, que leur économie en grande partie dépende d'un pays. Et ça, elle le disait déjà à l'époque.
Elle avait tout compris.
Et à Bobino, François Mitterrand était venu, il avait quitté la salle quand elle avait chanté Folle Amérique pour pas déplaire à Reagan. Mais je pense même que Folle Amérique a dû causer pas mal de soucis par la suite à Catherine Ribeiro. Mais bon, ça c'est...
Alors, autre chanson qui lui a causé d'autres soucis, tu peux en parler?
Alors, laquelle?
Alors, parce que, du coup, ça y est, j'ai un trou.
Paix.
Oui.
Voilà, Paix.
Oui, ça y est.
Paix, c'est vraiment la chanson pour moi libertaire par excellence. Moi, je suis un marginal. Hein, ça, j'ai pas de problème avec l'idée d'être un marginal. Je m'assume complètement. Et en fait, Catherine Ribeiro, c'est un chant d'amour aux marginaux. Elle-même, c'est une marginale de grande classe. Mais Paix. Bon, d'abord, la chanson d'origine, c'est une forme de langue trans. C'est quelque chose de très. Déjà, la musique nous met dans un état particulier. Il y a vraiment une recherche musicale profonde chez elle qui est, et le groupe Alp qui l'accompagne avec Patrice Moulet, où on est vraiment maintenu sous tension. Et puis ensuite, elle commence à parler. Et elle parle un peu comme une chamane, finalement, dans cette... C'est même pas une chanson, c'est une sorte de déclamation, de... C'est quelque chose qui relève plus de la transe que du simple truc, tiens, je vais mettre Paix dans la voiture et on va rouler dans le Limousin. Je crois que c'est
non.
Pas... C'est pas...
Voilà. Ça, c'est pas comme ça.
Et quand j'ai choisi d'interpréter ce titre, pour moi, c'était évident de le faire. Et là, je voudrais vraiment rendre hommage aux musiciens qui m'accompagnent parce qu'ils sont très bons. On se porte les uns les autres, ils sont très bons. Il y a évidemment Bertrand Ferrier au piano, il y a Claudio Zaretti à la guitare numéro 1, et il y a Sébastien De Fiol à la guitare numéro 2 qui m'accompagne aussi à l'harmonica sur un autre titre de ce tour de chant. Et Sébastien vient de la Dark Wave, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de Dark Wave chez Catherine Ribeiro, donc c'est du rock progressif, il y a quelque chose, il y a des points communs, et ils sont très très bons, et c'est vrai que je voulais... Oui, faire écouter cette version de Paix. Alors, il paraît, moi, je ne m'en rends pas compte, mais moi, quand je suis sur scène, c'est moi en plus, le véritable moi, le véritable Yann, il est sur scène, voilà, c'est là. Et c'est vrai que là, quand je prends Paix, il paraît que c'est comme si moi-même, j'étais en transe. Et c'est possible, je ne m'en rends pas compte. Et ça a été filmé, ça a été enregistré, et c'est vrai que, voilà, c'est vraiment l'occasion de faire découvrir cette version à nos auditeurs.
On peut le demander à...
C'était le 5 décembre au Gouvernail.
Voilà, on peut le demander à Nicolas.
Paix aux âmes mal nées qui ont luisant qui accouche de poissons luisants de gasoil. Ouh, paix à toi, maman, dont le sourire douloureux s'efface auprès de tes enfants. Oh, paix enfin à toi, papa, qui n'est plus et qui toute sa vie a trimé, attendant des jours meilleurs.
Auditeurs de Pas de Quartier, l'émission du groupe Louise Michel sur Radio Libertaire, 89.4 FM, en FM et sur Internet pour le reste du monde. Nous sommes avec Yann Alexander et son musicien Bertrand Ferrier. Je vais y arriver, je suis tellement émue. Nous parlons et il chante Catherine Ribeiro. Tu vas nous déclamer un texte d'elle.
Oui, c'est L'erreur est inhumaine. Alors, c'est un texte qu'elle n'a jamais adapté en musique, hein, qu'elle n'a jamais enregistré d'ailleurs, qui pour moi fait un peu écho à Qui a parlé de faim, mm-hmm. qui a été enregistré pour le coup. Et alors, c'est pas un texte nihiliste, mais c'est plutôt c'est un constat sur notre humanité qui est assez trouble. Voilà. Debout sur un piton rocheux, je contemple l'immensité de cette cohorte barbare. Je cherche encore à comprendre pourquoi tant de sang et de feu, de crimes contre l'humanité, nous avançons dans le brouillard. Je cherche encore à comprendre pourquoi de la vie à la mort, tant de fous contagieux se dressent, misérables conquistadors des plus invisibles détresses. De tous les coins de la planète, du nord au sud et d'est en ouest, des hommes se laissent manipuler. Je cherche encore à comprendre pourquoi la schlague et la défaite, pourquoi le bacille et la peste, pourquoi tant d'hommes exterminés. Je cherche encore à comprendre pourquoi, de la vie à la mort, tant de fous contagieux se dressent, misérables conquistadors des plus invisibles détresses. Jusqu'avant même que de mourir, ces milliards d'êtres survivants se tournent déjà dans leur tombe. Je cherche encore à comprendre, non plus que l'ombre d'un sourire devant l'enfant agonisant par la faim, le froid et les bombes. Je cherche encore à comprendre pourquoi de la vie à la mort, tant de fous contagieux se dressent, misérables conquistadors des plus invisibles détresses.
Merci Yann. Alors je voudrais que Bertrand dise quelques mots, parce que il est ton musicien. Les musiciens, en principe, ne parlent pas, mais tu es critique. Catherine Ribeiro, que pourrais-tu nous en dire, toi aussi?
Je crois que ce qui est très particulier, c'est que là, on ne parle pas de Catherine Ribeiro. On parle de Catherine Ribeiro par Yann Alexander. Mm-hmm. Et ce qui est, à mon avis, intéressant pour les gens qui font l'effort incroyable de venir au concert où Yann chante Catherine Ribeiro, c'est de se dire que la parole de cette femme, les musiques qui la portent, dans leur diversité, sont tellement fort
de
que en fait quand elles sont vraiment chantées, vraiment interprétées, vraiment vécues, on dirait que c'est du Ian Alexander. Et c'est pas faire un compliment à Ian spécifiquement, c'est faire un compliment déjà aux musiques et aux paroles qui nous portent, que ce soit dans l'engagement politique, que ce soit dans l'engagement amoureux, que ce soit dans la colère qui n'est pas encore engagée mais qui est déjà là. Et je crois que le spectacle Ian Alexander chante juste Catherine Ribeiro, il porte les spectateurs et les musiciens par cette capacité à nous projeter sur une personnalité en une heure. En une heure, Catherine Ribeiro, c'est un truc de dingue. On ne peut pas résumer Catherine Ribeiro en une heure. Et pourtant, on va lui donner, une impulsion, mm-hmm. on va lui donner une image éclatée, un vitrail, quelque chose. On sait pas ce que c'est, et ça va nous donner l'impression de repartir regonflé. Et j'aime bien cette idée que ceux qui viennent voir un spectacle repartent regonflés, avec plein d'envie, de découverte et aussi du mieux-être et de la foi dans l'importance de la combativité, que ce soit en amour, en politique et en musique.
Combativité en politique.
Je pense que je pense. Bon, j'ai vrai
merci,
que j'ai beaucoup. Merci Bertrand. Je pense que j'ai. Bon, c'est vrai que j'ai pris position sur beaucoup de choses. Bon, évidemment, on a parlé du Gabon tout à l'heure. J'ai beaucoup pris position contre l'homophobie, évidemment. Je prends toujours position. Je suis quelqu'un très engagé sur ces questions-là. Est-ce que j'ai un engagement révolté comme Catherine? Peut-être pas. Est-ce que c'est le côté fils de diplomate qui fait que je dis les choses d'une autre manière? J'ai conscience quand même d'être beaucoup plus J'ai conscience quand même d'être suffisamment subversif pour ne pas squatter les bandes FM. J'ai conscience d'être suffisamment subversif pour déranger même dans le entre guillemets petit milieu de la chanson française. Je le sais parce que je suis, parce que je véhicule, par peut-être une forme de liberté dans laquelle je me suis retrouvé évidemment avec Catherine, mais il n'y a pas qu'elle. Mais c'est vrai qu'elle fait partie des gens qui me parlent parce que. Je disais, voilà, c'était une marginale de haut niveau, mais une marginale quand même. Et je suis un marginal. On l'a tellement dit que maintenant je l'accepte. Mieux vaut l'accepter et ne pas se. Marginal. Alors peut-être j'ai quelques chansons qui sont un peu plus mainstream que d'autres, hein, qui sont. Quand c'était à Port-Gentil est sorti, c'est vrai que pas mal de radios ont joué le jeu et que j'étais sur des playlists où il y avait Nefke et Maître Gims, hein, en Côte d'Ivoire et tout. Donc. En Afrique, les gens s'embarrassent. Alors, je vais dire quand même quelque chose. Dans la francophonie, notamment en Afrique, ils s'embarrassent pas de ce genre de choses. Eux, ce qu'ils voient, c'est est-ce que l'artiste est susceptible de plaire, est-ce qu'elle est du public, et ils diffusent. Ils n'ont pas les mêmes grilles d'analyse qu'en France.
Tout à fait.
Donc, ça fait que effectivement,
on peut avoir quelqu'un comme Alpha Blondy.
Exactement.
Ou bien Tiken Jack Fakoly.
Exactement.
Avec un titre comme France-Afrique.
Exact, mais tout à fait.
Qui passait.
Tout à fait.
Sur toutes les radios.
Et sur toutes les radios, que ce soit au Gabon, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Bénin et tout. Et c'est vrai que bah, souvent, mon éditeur a envoyé des titres à moi en Afrique francophone, puisque... À un moment ou un autre, c'était diffusé. Il n'y avait pas de questions à se poser.
Oui.
En France et en Belgique, c'est plus compliqué.
Oui.
C'est plus compliqué.
Ben, la Belgique a échoué à présenter des excuses pour son passé colonial.
La Belgique, oui, ben avec le Congo.
Alors que les Pays-Bas l'ont fait. Même s'ils ont choisi une mauvaise date qui a heurté les populations en question. Ils l'ont fait. Bon, on peut leur donner crédit. Mais la Belgique, ils n'ont pas réussi à s'entendre là-dessus. Ça, c'est clair et net.
Est-ce que la France a fait quelque chose?
Oh, mais non. Alors là, si tu m'embrailles là-dessus, il faudra 3 heures d'émission.
Ah, non, mais on n'a pas le temps.
On n'a pas le temps.
On est
là pour Madame Ribeiro et toi.
Et voilà. Bon.
Voilà. Donc revenons à Madame Ribeiro qui nous écoute. Et on est vraiment très contente de le savoir. Qu'est-ce que tu aimerais dire que j'ai oublié peut-être de te demander à son sujet?
À son sujet, on a beaucoup échangé avec Catherine, hein, je l'ai eu au téléphone. C'est quelqu'un, bon évidemment, elle ne va pas bien, mais... Alors, ce qui m'a marqué, c'est que quand elle s'est mise à chanter avec moi au téléphone, c'était la même voix que sur les disques. C'est-à-dire qu'elle n'a pas perdu sa voix. Ça, c'est très troublant. Elle ne va pas bien, elle est dans un hôpital, mais quand elle chante...
C'est Madame Ribeiro.
C'est Madame Ribeiro. Ça, c'est quelque chose de très étonnant. Personne au langage cache, ça me pose pas de problème là-dessus. Mais qui m'a beaucoup encouragé. On devait se voir, mais ça ne s'est pas fait. Donc normalement, en janvier, je vais la voir en Allemagne.
L'embrasses de d'autre part.
Ah, mais évidemment. Elle est très... Je n'ai pas... Une amie à elle m'a expliqué que quand elle a écouté les extraits du spectacle, puisqu'elle ne pouvait pas se déplacer, qu'une larme a coulé, qu'elle s'est mise à pleurer. Voilà.
Oui, parce que la transmission se fait, quelque part. C'est la nouvelle génération.
Oui, c'est d'ailleurs les questions de transmission. C'est vrai que on est dans une époque où je crois qu'on transmet de moins en moins de choses. Oui. On est dans une époque...
Barbare.
Est-ce que les autres époques n'étaient pas barbares avec les guerres mondiales, avec tout ça?
Oui, mais je me rappelle l'anecdote où un ministre de Churchill avait dit « On supprime les crédits à l'agriculture et on va fabriquer plus de Spitfire. » Et Churchill lui a répondu « Mais pourquoi on se bat alors ?» Il y avait une place pour la culture. Tandis que maintenant, il y a une place pour rien. Quasiment. Il faut se battre.
Il faut se battre pour tout. La culture, c'est plus du showbiz maintenant. C'est vraiment du showbiz, y compris dans la chanson. Hein. Ils me font toujours rire, les gens qui parlent dans le petit milieu chanson, qui pensent qu'ils valent mieux que la Starac. C'est pas vrai. Ils ont les mêmes logiques, les mêmes sens de la hiérarchie, les mêmes jeux de pouvoir et tout. Il faut parler de ça, parce que des fois, on a l'impression que les gens arrivent, ils chantent leur chanson, il y a un public, ça se passe pas comme ça. Il y a beaucoup de rivalité derrière, de confrontation d'égo, il y a des clans, il y a beaucoup de courants, il y a des choses comme ça. Et que ça soit du côté de la chanson à texte ou que ça soit de la grosse chanson FM et tout, il y a beaucoup de choses et c'est très difficile d'exister là-dedans. C'est vrai que ça peut paraître impressionnant sur le papier. Yann Alexander, 19 ans, je chante, je vais fêter si tout va bien, je touche du bois, je vais fêter 20 ans de chanson le 30 mars prochain au Lincoln. Et puis, bon, évidemment, avant, il y a ce spectacle à Publico autour de Ribeiro.
Oui, le 18 mars
à 16h. Tout à fait.
Alors là, il va falloir pousser les chaises. Parce que.
Mais on va voir, est-ce que le public répondra présent?
Oui,
oui.
Moi, je serai là.
On poussera les chaises alors.
Voilà, on poussera les chaises.
En tout cas, on donnera le meilleur de nous-mêmes parce qu'on est très contents de faire ce spectacle à Publico. Ça a un sens pour nous de le faire à Publico. Je sais que Catherine connaît Radio Libertaire. Ça a un sens pour ce type de chanson de le faire à Publico. Je crois que ça aurait été une occasion manquée de ne pas le faire là-bas. 145 rue Amelot.
Dans le 11e.
Métro République. Ou Jacques Bonsergent.
Non, Oberkampf ou Fille du Calvaire. C'est plus proche. Mais on peut aller à Jacques Bonsergent.
Je suis à côté de la plaque.
Non, on peut sortir à Jacques Bonsergent, mais tu marches un peu plus loin.
Et moi, je sors à République pour y aller.
Voilà, République.
République, c'est bien quand même.
C'est bien.
Ah, voilà.
Voilà, il n'y a pas de souci.
Ok, République, Oberkampf ou Fille du Calvaire.
Voilà. Ouais.
Si je commence à dire à mon attaché de presse, tu mets bien Métro, Jacques Bonsergent, là.
La plupart du public, ça ne va pas fuir.
Bon, non, mais on est très content de le faire. Mais ce que je disais, voilà, ça fait impressionnant pour les gens. Ils voient 20 ans de chansons, mais 19 ans, 20 ans de chansons, mais ça reste un métier très dur, très âpre. Il y a des moments où j'ai gagné beaucoup d'argent, mais dans l'ensemble, ça a toujours été très compliqué. Et je dois mon salut, mais vraiment mon salut, à un entourage proche, familial, qui a toujours été là, proche, intime et familial, sur lequel j'ai pu m'appuyer, qui a été là en cas de coup dur. Alors peut-être que je le mérite, peut-être que j'ai fait ce qu'il faut pour être à la hauteur, j'en sais rien, ça on verra quand je ferai un bilan de vie, j'ai pas l'intention de le faire tout de suite, mais
le temps.
Voilà, il y a des gens qui ont été présents, très présents, et qui le sont encore, qui sont dans mon quotidien, qui le savent, et qui m'ont permis de tenir, et évidemment il y a un public en face, et c'est vrai qu'il n'y a pas eu depuis... 2003, il n'y a pas eu de temps mort. C'est vrai que J'ai toujours chanté, j'ai toujours fait des disques, il y a toujours eu des chansons nouvelles chaque année, il y a toujours eu des concerts chaque année. Et, il y a Jeff Monenfant qui tient une sorte d'archivage de toutes les dates depuis les débuts. Et c'est vrai qu'il n'y a pas une année sans concert.
Bien.
Et ça,
on te souhaite continue.
Mais c'est dur. Voilà. Je tiens toujours à ce que les gens sachent.
Quelle est ta prochaine date?
La prochaine date. Alors, les prochaines dates, le 4 février à Maison Alfort, en guest d'une chanteuse que j'aime beaucoup de musique du monde qui s'appelle Sultana, qui est franco-marocaine. Le 11 février, je chante près de Soissons. Je vais roder le tour de chant avec Bertrand Ferrier en piano-voix. Pour les 20 ans de chansons, on va le faire près de 60. J'attends des nouvelles pour chanter le 28 janvier à Berlin. Et puis, il y a Publico. Et puis après, il y a le 30 mars au Lincoln, près des Champs-Élysées. Et puis, je viens de recevoir ce matin une réponse d'une salle au Luxembourg. Donc, j'ai répondu et j'attends de voir un peu comment ça va se passer. Il y a Massy Palaiseau également. Bon, les choses se mettent en place, mais ça, c'est des informations qu'on peut trouver assez facilement.
D'accord. Il y a ton compte Twitter et il y a ton site
Twitter,
Internet.
Twitter, Instagram, Internet. Les gens peuvent m'écrire sur Facebook. Il n'y a pas de
souci. Tu répondras.
Oui.
Bertrand, un mot avant qu'on ne passe la prochaine chanson à ce stade de l'émission.
Ouais, alors moi, je voudrais insister sur, puisque tu m'en donnes l'occasion, sur le public. Je trouve que, qu'il le mérite ou pas, Yann a un public qui est multiple, qui n'est pas toujours uniforme, mais qui fait l'effort d'acheter sa place, de se déplacer et de faire confiance à ce type un peu frappadin, on peut le dire, qui fait à chaque fois des spectacles très, très différents les uns des autres. Et néanmoins, il y a une sorte de communauté, je déteste les communautés, mais en tout cas de petits groupes qui est polymorphe, qui n'est pas toujours le même, mais qui fait confiance à l'artiste pour faire quelque chose d'original et qui fait du bien quand on... Parce que moi, je voudrais insister sur un truc. Quand on est sur scène, on ne s'en rend pas compte, mais les gens se déplacent pour venir vous voir. Ils ont fait leur journée, ils ont payé leur place, ils se déplacent pour venir voir et après ils rentrent. Parce qu'à l'arrière, se déplacer, t'es content, tu vas au concert, mais après ils rentrent. Et il faut quand même saluer que parfois ils viennent voir Yann Alexander, ils savent pas du tout ce qu'ils vont voir. Ils savent pas, Yann Alexander chante Catherine Ribeiro, t'es pas obligé de savoir. Mais ça peut être Yann Alexander chante Pauline Julien, ça peut être Yann Alexander chante Yann Alexander, mais avec des invités complètement barjots qui sont là. Et à chaque fois, il y a cette confiance qui est là et il faut s'incliner. En tout cas, moi je m'incline devant cette envie. Souvent on dit, il y a plus de public pour la chanson. C'est vrai que c'est difficile de le bouger, c'est vrai que c'est parce que moi je suis public aussi, donc je sais que c'est difficile de me bouger, mais il y a aussi cette volonté d'oser des formules qui soient toujours de la chanson, mais qui osent un peu gratter autour et rendre hommage justement à la profondeur du répertoire, soit d'un artiste qui chante depuis 20 ans, soit d'une superstar comme Catherine Ribeiro, qui continue de nous éblouir par ses disques et grâce à Yann.
Merci.
Alors, Yann pour
On va interpréter Les Prédateurs.
S'il te plaît.
On va interpréter Les Prédateurs.
Une de mes chansons préférées.
Oui, c'est une chanson justement où elle parle de la violence du showbiz et comment elle a tenu.
Oui.
Et c'est vrai qu'évidemment, ça me parle beaucoup en tant que métisse qui faisait de la chanson à texte dans des cabarets. C'est vrai que je bousculais un peu les clichés et que ça ne m'a pas fait que des amis. Donc, je me reconnais beaucoup. Puis je crois que même sans être artiste, par exemple, des gens qui sont dans le monde de l'entreprise, ou ils peuvent se reconnaître dans cette chanson.
Je confirme.
Voilà. Ils m'ont tout pris, mes hommes et femmes, mes jeux secrets et mes caresses, mes turbulences, mes oriflammes, mes mains complices de la tendresse. Ils m'ont tout pris, et Dieu mon âme, compagnon de la chimère, maîtresse de la pétaudière, amant de la violation, femme vautour de la passion. Ils m'ont tout pris.
pris les encastrés, mes jours sans fin, nuit sans sommeil, mes forces vives fragilisées, mes ruptures en forme d'éveil. Ils m'ont tout pris dans la foulée. Compagnon de la chimère, maîtresse de la pétaudière, amant de la négation, femme vautour de l'occasion. Ils m'ont tout pris, les prédateurs, et tout mon corps y est passé. M'ont dévoré jusqu'à l'horreur, jusqu'à vouloir me supprimer. Ils m'ont tout pris en profondeur. Compagnon de la chimère, maîtresse de la pétaudière, amant de la déraison, femme vautour de lunaison. Ils m'ont tout pris, mais je suis là, surdoué de la survivance. Je sais encore ouvrir mes bras, osez-moi de la fulgurance. Ils m'ont tout pris, et je suis là, compagnon de la chimère, maîtresse de la pétaudière, amant de la désillusion, femme vautour de l'illusion. Oh,
ah. Ah, merci. Merci Bertrand, merci Yann. On va pousser les chaises le 30. C'est sûr. Il va mettre le feu à la publico.
C'est du rock, hein, aussi. C'est du rock.
Mais oui, c'est mais du rock. Oui, mais oui.
Du vrai rock.
Mais oui.
Entre autres.
Alors, je voudrais que, s'il peut, Nicolas commence à nous préparer la dernière chanson. Exceptionnellement, le générique ne sera pas notre générique habituel, mais on mettra une chanson, et c'est un hommage à Catherine Ribeiro. C'est en fait la première chanson qu'on m'a diffusée d'elle, quand j'étais plus jeune, et sa voix m'a scotchée. Et encore, c'est rien de le dire. Et du coup, je me suis précipitée chez mon disquaire pour acheter le disque. C'était Le Chant des Partisans. Ah oui. Et vraiment, je l'ai écouté, réécouté en boucle pendant des... Ma mère n'en pouvait plus. Elle me dit, change de musique. Elle n'en pouvait plus.
Je crois que c'est l'une des meilleures interprètes de cette chanson,
voilà.
Je pense.
Bien. Yann, avant que nous avons encore une dizaine de minutes, reprends ton souffle. Parce que c'est très technique.
C'est physique, Ribeiro.
C'est physique, oui.
Disons, tout concert est physique, mais là, avec Ribeiro, on rajoute un peu plus encore, oui.
Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose que tu souhaiterais dire à nos auditeurs pour les inciter à...
Mais venez, venez, c'est, venez, voilà, je suis toujours un peu embêté quand, enfin, des fois vraiment il y a des choses, on a des gens qui postent sur des commentaires, il n'y a plus rien de bien depuis Jacques Brel, il n'y a plus rien, non, on est là, donc venez, je le dis en plus, des fois il y avait des journalistes gabonais qui disaient le Jacques Brel gabonais en parlant de moi, donc alors, c'est peut-être une facilité de langage, parce que les gens font toujours des comparaisons, mais voilà, il se passe plein de choses actuellement. Et plutôt que de se lamenter sur il n'y a rien à la télé ou il n'y a rien à la radio, à partir du moment où vous avez des artistes qui font quelque chose, allez les voir. Est-ce que vous aimerez ? Peut-être, peut-être pas. Mais vous aurez quand même vécu quelque chose d'intéressant dont vous pourrez parler après avec des gens. Et peut-être ne vous laissez pas entraîner dans une forme de fatigue générale. Notre société est très fatiguée. J'ai l'impression qu'il y a une forme de fatigue, de lassitude collective.
Ah, le confinement nous a tués.
Le confinement a tué beaucoup de gens. J'entends souvent des gens, oui, je suis fatigué. Mais vous savez, nous aussi, les artistes, on est fatigués parfois. Mais l'art, c'est la vie. Le spectacle vivant, c'est quelque chose de très fort. Et mieux vaut être fatigué et assister à un spectacle vivant qu'être fatigué et qu'il n'y ait plus rien du tout. Je pense vraiment à ça. Ne prenez pas ce prétexte de la fatigue pour ne plus voir des artistes. J'entends trop souvent ce prétexte de la fatigue et il me met mal à l'aise. Voilà, ça c'est important de le dire parce qu'on chante pour vous. Donc, Sans vous, nous ne sommes rien, mais ce n'est pas une question d'ego. C'est une question qu'on est porté par quelque chose, et je crois que c'est beau de faire des chansons sur scène, c'est magnifique. Ce n'est pas donné à tout le monde. Et si on le fait, c'est quand même pour vous.
Alors Bertrand, un dernier mot.
Peut-être pour prolonger ce que dit Yann, il y a une citation d'Alain Souchon que j'aime bien reprendre sur scène, et il dit qu'une fois qu'il est sur scène, au public, il dit « Si vous n'aviez pas été là, pour nous, ça aurait été très différent. » Et c'est vrai qu'on a besoin, non seulement qu'il soit là parce que c'est notre métier, mais aussi parce que c'est le sens de ce qu'on fait, c'est ce partage. Et le but, c'est qu'ils repartent heureux, et donc, terminons par une citation de Diane Dufresne qui disait à l'Olympia en 78 « Soyez heureux, parce qu'un homme heureux en rend plusieurs heureux. » Et si les gens peuvent repartir avec le smile des concerts que l'on donne, ben mon vieux, on n'aura pas perdu notre vie.
C'est bien pour ça que j'ai tenu à ce que vous soyez là pour la dernière émission de l'année. Soyez heureux. Venez nous voir le 18 mars à 16h. En plus, c'est l'anniversaire de la commune. On n'a pas choisi cette date par hasard. Ça va être double sens. À Publico, 145 rue Amelot. Donc, venez, Yann, vous le verrez en chair et en os. Mais en chair.
En chair, voilà.
Bertrand sera là, les autres seront là. Oui. Et vous passerez un moment inoubliable et vous vous en parlerez. Parce que beaucoup de prestations à Publico, les gens en parlent encore. Et ils amènent d'autres personnes en disant à Publico, c'est unique. Et d'ailleurs, quand tu es venu à Publico pour déposer tes affiches, j'ai été étonnée. Je me dis, il vient en personne.
Oui, c'est vrai que des fois, j'ai quelqu'un qui le fait pour moi. Mais là, pour Publico, je voulais venir en personne. Voilà. Parce que ça avait un sens pour moi. Je ne voulais pas que quelqu'un d'autre le fasse.
Et à ton spectacle, d'autres t'ont demandé
Oui.
Si tu aurais une date à
tout
Publico.
Tout à fait.
Donc voilà. Bien. Nicolas me fait signe, si c'est prêt, c'est prêt. Eh bien écoutez, on va pouvoir finir avec le chant des partisans de Catherine Ribeiro. Madame, nous vous remercions.
Merci Catherine.
Pour tous les moments de bonheur que vous nous avez donnés. Yann continue à nous donner du bonheur, Bertrand pareil. Et merci Nicolas pour avoir fait la technique.
Merci à lui aussi.
Chers auditeurs, portez-vous bien et à bientôt.
Les partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et de larmes. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens au creux des lits font de rêves. Ici nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Sifflez, compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute. Oh.